voix nue. Cette semaine, Alban Pinaranda rencontre Marie-Josée Malice. Ce soir, la petite fille de l'Américain et du Bila à nous.
Marie-Josée Malice, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous toute cette semaine. Marie-Josée Malice, vous dirigez le théâtre de la commune d'Aubervilliers. Portée par la foi, je vous cite, en une égalité de tous devant la beauté, succédant à Didier Besas dans ce haut lieu de l'institution théâtrale, avec la volonté fièrement affirmée d'y proposer un théâtre pour tous et d'y faire naître une pensée pour un monde nouveau, là encore, ce sont vos mots. Tout au long des entretiens que nous aurons ensemble cette semaine, nous verrons si le bilan que vous faites de vos années déjà passées à Aubervilliers peut être jugé à la hauteur de ce qu'étaient vos ambitions et vos espérances initiales. Et en évoquant les différents âges de votre histoire précédant Aubervilliers, nous découvrirons surtout comment s'est forgée en vous l'idée très haute et très exigeante que vous vous faites du théâtre et de sa pratique. Et puis, reconduite à la tête du théâtre de la commune au printemps 2020, vous nous direz comment vous avez abordé la suite de votre aventure à Aubervilliers, avec quels projets et avec quels espoirs. Ceci dit, comment vous présentez Marie-Josée Malice comme un metteur en scène ou tenez-vous à ce que soit féminisé plus nettement le titre de cette fonction ?
Non, moi je dis metteur en scène sans féminiser, parce que je pense appartenir à une génération qui ne s'est pas appropriée la féminisation des noms.
Et de vos plus lointains souvenirs, comment vient la passion, l'amour du théâtre, à une fille d'ouvrier agricole vivant dans les années 70 dans un petit village des Pyrénées-Orientales près de Perpignan ?
Je ne sais pas si c'était l'amour du théâtre d'abord, mais il y avait la découverte comme ça, d'états extraordinaires que portaient les acteurs que je voyais à la télévision. Je me souviens que j'avais une passion pour Annie Cordy. Je me souviens aussi que j'aimais beaucoup au théâtre ce soir. Puis quand j'étais petite, je voulais être aussi chef d'orchestre. Voilà. Et ensuite, je me souviens qu'un ami qui m'avait arrêté comme ça dans la rue du village m'avait proposé de rejoindre le club théâtre qu'il animait. Il était jeune, il devait avoir, je sais pas, 13 ans, et puis moi je devais avoir 11 ans. Et je rejoins une petite troupe comme ça du village.
Et puis il y a eu cette troupe qui racontait la vie de Molière.
Oui, c'était une petite troupe qui jouait dans les villages et qui racontait par la scène donc la vie de Molière, et en particulier les épisodes itinérants de la vie de Molière. Et j'étais tombée amoureuse de cette troupe, en particulier de l'acteur qui jouait Molière. Je crois que j'avais pas tellement la conscience de la séparation entre la réalité et la fiction. Et je voulais vivre avec eux. Je voulais qu'ils m'emmènent en fait dans leur voyage. Je voulais être sur scène avec eux. Et comme je n'arrivais pas à les retenir, je me souviens que je les avais suivis en bicyclette dans les villages où ils allaient jouer. Voilà, je prenais ma bicyclette sans le dire à mes parents. Et même, je me souviens que je les avais enregistrés sur un magnétophone pour les garder avec moi quand ils seraient partis loin.
Dans votre enfance, votre adolescence, à quoi ressemblait votre village Pézilla-la-Rivière ?
Pézilla-la-Rivière, c'est un village qui est à côté de Perpignan. Il y a le soleil là-bas, le vent. C'est un village agricole. Il y avait beaucoup, beaucoup de champs, essentiellement du maraîcher et quelques vignes. C'était un village très prospère agricolement. Il y avait beaucoup de jeunes exploitants agricoles, village très vivant. On considérait que c'était le plus beau, le plus fort des villages environnants. Il y avait des petites rivalités comme ça avec les autres villages. Le dimanche, on allait au rugby. Les garçons faisaient du rugby. C'était un village où on a souvent, longtemps, fait la fête. Il y avait une grande amitié.
Et aujourd'hui, à quoi ressemble Pézilla ? Comment a-t-il changé ce village depuis votre enfance ?
C'est un village qui a beaucoup changé parce que, tout simplement, la crise agricole est passée par là, la crise économique pour les agriculteurs. J'avais beaucoup d'amis, des jeunes gens qui sont devenus exploitants agricoles après leurs parents, après leur père. Ça n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je crois qu'il reste 3-4 exploitants agricoles. Évidemment, les fils ne reprennent pas les terres. Maintenant, il y a beaucoup de terres en friche, en jachère. Et il y a aussi Bon, pas de manière défigurante complètement, mais il y a aussi plus de zones pavillonnaires qui ont poussé. Voilà, mais le village a surtout perdu ce qui en faisait l'âme et qui était donc cette vie paysanne très 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 intense, hein, très particulière.
Et votre enfance, votre adolescence s'est passée dans les champs, dans la nature, a aidé peut-être un peu vos parents?
Oui, mes parents étaient ouvriers agricoles, mais ils avaient ce qu'on appelle des terres à mi-fruits. Donc, une fois qu'ils avaient fini leur journée de travail, ils allaient travailler leurs petits champs à eux. Voilà, et ils essayaient de vendre leur production à eux. Et donc, c'était des journées de travail très dures, hein, pour eux. Et donc, on allait les aider principalement pendant les vacances scolaires, vacances de Pâques, etc. On allait cueillir les navets, cueillir le persil, etc. J'ai souvenir des champs de mon père qui étaient au bord de la rivière. Ils avaient une terre comme ça, un peu sablonneuse. Moi, j'aimais pas du tout ça. J'aimais pas du tout. Je faisais toujours tout un tas d'histoires. Puis je prétextais qu'il fallait que je lise des livres. Et mon frère, lui, était beaucoup plus courageux, loyal. Il y allait de bien meilleur gré que moi.
Et la vie familiale, la famille élargie, les oncles, les tantes, les cousins et les repas du mercredi, Marie-Josée Malice.
Oui, on était une petite famille parce qu'on était issus donc de l'immigration espagnole. Donc voilà, c'était une petite famille au sens où bien des branches de la famille étaient restées en Espagne ou avaient émigré ailleurs. Mais dans cette petite famille, donc oui, il y avait une grande importance des grands-mères, des grands-parents d'abord, chez qui donc on allait souvent le mercredi manger chez ma grand-mère Joseph, avec mes cousins. Il y avait les oncles aussi, les tantes. Deux de mes oncles sont décédés maintenant, mais ils étaient extraordinaires. C'était des personnages extraordinaires parce qu'ils sont restés célibataires très tard. Alors ils faisaient beaucoup la fête et on rêvait tous de leur ressembler. Il y avait donc les parents, les cousins, ma tante Rosette aussi, qui était très belle. C'était chaleureux, c'était simple.
Vous sentez-vous catalane ?
Non, je ne me sens pas catalane plus que ça. Enfin, je parle un peu le catalan, j'aime bien, mais je me sens provinciale en fait. Parfois, certains Parisiens me font encore sentir que j'ai un peu du foin dans les chaussures en fait.
Ce monde rural, ce monde agricole, ce sud catalan, ses paysages, son soleil, dont vous avez conservé une pointe d'accent, ses parfums, diriez-vous que ce monde est inscrit, qu'il y en a trace dans votre manière de voir, de ressentir le théâtre ?
Je ne sais pas. Peut-être dans le fait que je crois être très, très... en un sens, sans le savoir, je crois être très sensuelle, au sens où je suis très... sensible aux événements physiques chez les acteurs. Je suis très sensible à beaucoup de détails. Et peut-être que j'ai appris comme ça de la vie très vitale au village, très saine, enfin, une enfance très, très... une enfance libre, et puis passer dans les rues, dans les champs. Peut-être que j'ai appris à aimer les sensations, à les rechercher, en fait. Et puis, j'en ai conçu aussi beaucoup de confiance. Alors, je ne crois pas que la vie au village m'ait appris à faire du théâtre ou à voir comme on voit au théâtre, non. Mais je crois que j'ai reçu un sol suffisamment solide et confiant pour pouvoir devenir créatrice, en fait, pour pouvoir m'appuyer sur mes propres sensations.
Vous dites de vos parents qu'ils ont été la chance de votre vie.
Oui, mes parents, je trouve que ce sont des gens extraordinairement intelligents. C'est les gens les plus intelligents que je connaisse, en fait. Ils ont su établir avec mon frère et moi une relation que je trouve exceptionnelle, qui était une relation de totale confiance, si bien qu'ils nous laissaient être. Ils nous laissaient devenir ce que nous voulions devenir. Et ils avaient vraiment une idée très claire que les enfants sont d'autres personnes que vous-même et doivent être autres que vous. Donc ils nous ont laissé pousser comme ça, en nous donnant le sentiment qu'on pouvait être ce qu'on voulait. Et en même temps, ils nous ont entourée d'un sentiment très discret mais très certain de sécurité. On savait qu'il serait là, mais il n'intervenait jamais, sauf quand on les sollicitait. Et je ne sais pas comment ils ont fait ça, c'est une espèce d'alliage, de liberté et de protection, de compréhension naturelle, intime, des besoins de l'individu, que je n'ai vu que chez ces gens-là. Parce qu'après, j'ai appris à découvrir d'autres parents que les miens, en particulier chez mes amis de lycée. Et j'ai découvert qu'il y avait des parents bien plus tourmentés, en fait.
Et votre frère, Marie-Josée Malis ?
Alors, c'est aussi un drôle de zigoto. Lui, il n'a pas fait d'études. Il s'appelle Denis. Il a travaillé assez tôt. Il était très courageux, mon frère. Il a toujours été très, très, très courageux, très travailleur. Et donc, il a fait une carrière au départ de fonctionnaire territorial. Et puis, à un moment, il en a eu assez. Il a eu une sorte de crise philosophique, existentielle, vers 40 ans. Et il a décidé de vivre tout à fait autrement. Donc, il est devenu bouddhiste. Mais au fond, je crois qu'il est comme un saint. Il essaye de vivre dans un principe de bonté, mais avec une grande, grande conséquence, en fait. Donc, il organise sa vie pour être bon. Donc, il est très généreux, il vit de très peu de choses. Et en revanche, il met tout son temps, toute sa force à essayer de faire du bien. C'est très étonnant.
Du côté de votre père et du côté de votre mère, il y a l'Espagne. De quelle Espagne s'agit-il et qu'a représenté pour vous cette filiation espagnole? Que représente-t-elle aujourd'hui?
Mes parents viennent en effet tous les deux de l'Espagne. Il y a l'Espagne de mon père, qui est l'Andalousie. Et c'est une immigration qui date d'avant la guerre civile. C'était l'immigration des gens les plus pauvres d'Andalousie. Ces gens qui mouraient de faim, en fait. Et donc, mon arrière-grand-père espagnol est venu en France pour travailler dans les mines. Ma grand-mère, donc, a rencontré ensuite mon grand-père ici, à la frontière espagnole, à Portbou, là où est mort Walter Benjamin. Et du côté de ma mère, ce sont des gens qui viennent de la province d'Alicante, enfin, entre Alicante et Valencia, un village qui s'appelle Javea. Là, on parlait catalan, plutôt, enfin, le valencian. Et ce sont des gens qui sont, eux, venus pendant la guerre civile. Après que mon grand-père a essayé, comme ça, de trimballer sa famille dans l'Espagne pour échapper aux tourments de la guerre, en fait. Et à un moment, ils ont décidé de passer la frontière dans les années 30.
Vous évoquez vos grands-pères. Alors, qui est l'Américain et qui est le Bilanu dans votre famille?
Donc, l'Américain, c'est mon grand-père maternel. C'était un personnage génial, un homme très vivant, très généreux, très drôle. Et quand il est arrivé en France, bon, il y avait une forme de xénophobie, en fait. Donc, on les appelait les Espagnols. Et puis, bon, voilà, ça voulait dire que c'était les pauvres, quoi. Et mon grand-père en a eu assez. Et à un moment, il a déclaré, mais moi, je ne suis pas espagnol, je suis américain. Et c'était une déclaration un peu comme ça, un peu audacieuse, un peu bravache. Très, très humoristique, et qui a impressionné les gens. Et voilà, il a dit, moi je suis américain. Et c'est donc devenu son surnom au village. Et je trouve que ça lui ressemble, en fait. C'était un homme qui avait décidé qu'il n'allait pas subir la situation. Et puis, le Bila, nous, c'est le surnom de mon arrière-grand-père paternel, qui s'appelait Stanislas, qui est mort assez jeune. Et qui était, paraît-il, très très drôle, et qui chantait toujours cette chanson « Albilanu tenungat ». Et c'est ensuite un surnom qu'on a donné à mon père, parce qu'il paraît qu'il ressemblait beaucoup à son grand-père, qu'il en avait la vivacité. Et le Bilanu, c'est, je crois que ça a à voir avec ce que, en ancien français, on traduit par le vilain, donc le paysan, voilà.
Est-ce qu'on parlait politique chez les Malis et chez vos grands-parents? Est-ce que la guerre d'Espagne, le franquisme était présent?
Non, le franquisme n'était pas présent. Enfin, je n'avais pas conscience, moi, du franquisme. Je me souviens simplement que mon grand-père paternel recevait des nouvelles de l'Espagne, de ses sœurs qui étaient restées. Je me souviens aussi des tontons et des tatas espagnols. Et... je me souviens que mon grand-père aurait voulu finir sa vie en Espagne et que ses enfants, dont ma mère, ont refusé d'y retourner en disant « mais nous, on est français, on a fait notre vie ici ». Et que donc mon grand-père a dû rester voilà, en France pour eux. Et parce que ma grand-mère, évidemment, voulait rester avec ses enfants. De politique, on ne parlait pas chez moi, tout simplement parce qu'il y avait quelque chose de très simple dans la tête de mes parents. Ils savaient qu'ils faisaient partie des pauvres, mais au sens pas du tout misérabiliste. Simplement, ils savaient qu'ils devaient compter sur eux-mêmes, par eux-mêmes, et qu'il fallait qu'on se débrouille, et puis voilà quoi. Donc, il n'y avait pas d'articulation politique de cette position, au sens... Il y avait juste une conscience très, très claire.
Et les livres, le goût pour la lecture, c'est votre père ?
C'est mon père, oui, qui m'a fait croire de manière géniale qu'il avait lu tous les livres. Parce que mon père, je crois, était très bon élève quand il était jeune à l'école, mais il avait dû arrêter ses études hein, à 14 ans, hein, comme tout le monde de sa classe sociale à l'époque. Et simplement, je pense qu'il avait, était très intelligent, et donc il connaissait les livres du grand répertoire. Donc si bien que quand j'empruntais un livre à la bibliothèque, il me disait « Ah, je l'ai lu !» et me le racontait un petit peu. Et ça me fascinait beaucoup. Et donc c'est lui qui a fait lever comme ça en moi l'amour des livres, la grandeur aussi de leur place dans la vie d'un individu. Et c'est plus tard que j'ai commencé à me rendre compte que peut-être qu'il ne les avait pas lus. Mais je ne lui en ai pas du tout voulu. Au contraire, je l'ai encore plus aimé d'avoir su me faire rêver des livres.
Votre père avait fait la guerre d'Algérie, 2 ans et demi. Vous êtes né bien après, en 66. Vous a-t-il transmis quelque chose de cette guerre, de ce qu'il avait vu, vécu en Algérie ? En parlait-il ?
Non, mon père faisait partie de ces gens qui ont fait une guerre d'Algérie très dure. Hein, parce que, comme fils d'ouvrier, qui plus est agricole, il avait été envoyé servir dans un corps très dur, très brutal, le corps des fusiliers marins. Il n'en parlait pas. Il fait partie aussi de ces gens qui n'en parlaient pas. Je ne l'ai vu parler de la guerre d'Algérie qu'une fois, lorsqu'il avait reçu chez lui un ami qu'il n'avait pas revu depuis la guerre. Puis à un moment, à la fin du repas, ils se sont enfermés. On est sorti de la pièce. On a senti qu'on devait sortir. Et ils sont restés 4 heures enfermés, tous les deux, à parler de la guerre. Mais n'en parlaient pas. Pour moi, la guerre d'Algérie... J'ai compris la place qu'elle occupait dans la vie de mon père quand j'ai commencé à méditer sur le tempérament, le caractère de mon père. Parce que mon père était un homme très vivant, mais il avait aussi un aspect un peu tourmenté. Il avait une sorte de côté sombre, de côté opaque. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'était la guerre qui avait déposé en lui quelque chose d'indicible. Parce que tout simplement, à 20 ans, on lui a mis un fusil dans les mains et qu'il a livré une guerre sale, en plus, qui n'a pas été purgée par la France, dont la France n'a rien dit. Et souvent, quand ma mère était en colère contre lui, ce qui pouvait arriver, je lui dis encore à maman, « Tu sais, maman, il faut comprendre que papa a fait la guerre. » Voilà. Personne d'entre nous ne sait ce que c'est que de faire... La guerre à 20 ans, et je crois que chez les hommes de sa génération, ça a laissé quelque chose, en fait.
Vos parents, vous les admirez. Qu'est-ce qui fait qu'on admire ses parents, ce qui, après tout, n'est peut-être pas si courant, Marie-Josée Malis ?
Comme je vous l'ai dit, ils ont construit quelque chose de complètement exceptionnel. Ils n'ont rien réglé à travers nous. Ils ne nous ont pas demandé de vivre une vie à leur place. Par exemple, moi, je crois que j'ai réussi mes études, mais je ne les ai pas réussies parce qu'on me l'a demandé. Je les ai réussies parce qu'on m'a laissé aimer les livres comme je le voulais. Bon. Donc, c'était pas du tout... Il n'y avait pas de règlement, de comptes sociaux à travers nous, d'une part. Et puis, d'autre part, je pense qu'on ne peut admirer les gens que quand les gens ne savent pas qu'ils sont admirables, en fait. Mes parents... Ma mère, par exemple, a une sorte de génie de la vie, une générosité que j'ai jamais vue. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas à quel point elle est exceptionnelle, généreuse en fait.
Le plus souvent, dans le parcours scolaire brillant des enfants que rien dans leur milieu familial et social ne prédisposer à cela, il y a un ou plusieurs enseignants qui jouent un rôle déterminant. Des enseignants qui les poussent, qui les révèlent à eux-mêmes. Je sais, Marie-Josée Malice, que vous n'êtes pas une grande fan de Camus, mais dans le parcours qui vous a mené jusqu'à la rue d'Ulm, jusqu'à Normal Sup, et plus tard à la mise en scène, avez-vous eu votre monsieur Germain, un instit, un prof qui a joué un rôle clé, qui vous a vu?
Oui, il y en a plusieurs. Il y a d'abord une professeure au collège qui s'appelait Mademoiselle Badi et qui nous a donné l'amour fou du théâtre. Elle m'a fait jouer... moi, j'ai joué le rôle d'Arnolphe, par exemple, avec elle dans l'école des femmes. Ensuite, il y a eu un prof que j'aimais beaucoup qui s'appelait Monsieur Loga, qui était un homme doux, très doux, et qui m'accompagnait de manière rêveuse dans le goût des livres et du théâtre. Et puis, il y a eu deux professeurs déterminants qui s'appelaient Monsieur Coquille et Monsieur Mallet, au lycée, et qui nous ont fait faire du théâtre dans des conditions extraordinaires, au Palais des Rois de Majorque. C'est un peu l'équivalent du Palais des Papes, c'est une architecture très très belle. Et là, on a joué des pièces de théâtre en utilisant toute l'architecture du palais, les jardins, les salles de cérémonie. Et on était une troupe très insolente et très unie aussi. Et je voudrais citer d'ailleurs mes amis Justine, Alain, Marc, Gilles, avec qui j'ai fait ce théâtre-là.
Et ce monsieur Coquille s'est pris de passion pour vous. Il a fait de vous son égérie, il vous a fait jouer Jeanne d'Arc.
La Jeanne d'Arc de Peggy. Ça dure 4h30. Je passais le bac et il avait détecté en moi le côté prêt à tout, en fait, le côté complètement casse-cou. Donc j'étais... très très passionnée, complètement exaltée en fait par la mission qui avait à incarner Jeanne d'Arc. Donc évidemment j'ai adoré, je me suis rasé la tête comme René Falconetti dans le film de Dreyer. C'était complètement fou de jouer ça. Et je me souviens que une fois à la sortie de la représentation, une dame était venue me demander si je ne voulais pas venir chez elle soigner sa fille malade. Alors j'étais à la fois fascinée par la demande et en même temps là j'ai commencé à comprendre que j'étais peut-être allée un peu trop loin.
Et c'est ensuite ce fameux monsieur Coquille qui s'est occupé de votre orientation, Marie-Josée Malice.
Oui, c'est lui qui a dit à mes parents que j'étais vraiment douée pour les lettres, etc. Et que donc il fallait que j'aille faire une hypocagne, enfin une classe préparatoire à Toulouse au lycée Fermat. Mes parents ne connaissaient absolument pas ça, mais ils se sont laissés faire très volontiers, donc voilà.
Et qu'est-ce qui fait que peut prendre la grève scolaire sur des enfants de milieux modestes? Des enfants qui n'auraient pas à portée de main la culture avec un grand C, pas les codes de cela, d'avoir été aimés et bien aimés, intelligemment, de venir de familles sans instruction, mais peut-être pas acculturés?
Pas acculturés, loin de là. Hein. Il y a d'abord une place de la culture dans ces familles-là, enfin dans ma famille. Voilà, mon père mettait les livres très haut dans son existence. Pas acculturé non plus parce que c'était des gens qui avaient vécu. En fait, au fond, la culture, c'est aussi l'expérience, en fait. Qu'est-ce qu'on fait les méditations qu'on a sur la vie, la capacité qu'on a à la réfléchir. Et après, il y avait aussi toute une école qui était faite pour ça. Enfin, il y avait vraiment une école, un ordre de marche qui était faite pour accompagner les enfants comme nous vers l'idée de la réussite. C'était un temps aussi où l'ascenseur social, comme on dit, marchait très bien. Donc il y avait des grandes espérances. On pouvait tous espérer réussir nos études, avoir une bonne vie, avoir des métiers intéressants. C'était un moment aussi où on avait le sentiment que on était attendu sur Terre, en fait, au sens où on ne parlait pas du tout du chômage. On était vraiment comme ça convaincus que nous allions pouvoir vivre très haut nos désirs, en fait. Donc ça, c'était vraiment aussi une chance, quoi. La confiance et le fait que... C'était un moment où je pense que l'avenir était une notion dynamique.
Et pourquoi cela a-t-il pris sur vous, l'école?
Je ne sais pas. Je crois que ça vient de ma mère, en fait. Ma mère est quelqu'un qui est curieux tout le temps. Elle adore apprendre. Bon, mon père aussi était comme ça, hein, mais chez ma mère, ça a une grâce particulière parce que, en fait, d'abord, elle est très joyeuse. Elle cherche partout les phénomènes qui peuvent réveiller sa joie. Et elle est très très curieuse en fait. Et donc il y a finalement, sans le savoir, comme ça de manière innée, un goût de la connaissance, un goût de l'étonnement, de l'apprentissage. Et je crois que c'est ça qui fait que on peut éventuellement mener des études assez loin, c'est qu'il y a quand même une passion de la connaissance. Et puis chez ma mère aussi, comme chez mon père, il y a aussi le goût de l'admiration. Moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est admirer. Et donc, j'ai appris parce que je voulais ressembler aux gens que j'admirais.
Et donc, après, il y a eu la prépa littéraire à Toulouse, puis ensuite l'admission à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Qu'a représenté pour vos parents cette admission ?
Ils ont été très fiers, mais au départ, il faut que je dise qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'école normale supérieure. Et que donc, quand j'ai été admise, c'est l'instituteur du village, le directeur de l'école, M. Escura, qui a arrêté mon père dans la rue et qui lui a dit « Mais Jeannot, est-ce que tu sais que ta fille vient de réussir l'école de Jean-Paul Sartre, de Pompidou ?» Et notre instit avait les larmes aux yeux, en fait. Et donc c'est à ce moment-là que mon père a compris que quelque chose d'assez considérable venait d'avoir lieu. Et je me souviens que... Ça, c'est un souvenir que j'adore raconter, parce que je me souviens que... Bon, c'était l'été, j'avais fait une sieste l'après-midi. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu mon père, comme ça, qui me regardait dormir, comme si j'étais quelqu'un qui lui était devenu étranger. Il était un peu effrayé. Et en même temps un peu admiratif. Bon, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors bon, là, il s'est mis à râler en disant, non, mais rien, bon. Mais j'ai senti que, voilà, tout d'un coup, il comprenait quelque chose qu'il n'avait pas compris alors. Mais alors, c'est à mettre à leur crédit, parce que quand même, ils m'ont aidé à faire des études sans savoir ce qu'elles étaient, en fait.
Retournez-vous souvent à Pézilly-à-la-Rivière, Marie-Josée Malis ?
Oui, j'y retourne souvent quand je peux. Mais depuis que je dirige le théâtre, j'y vais beaucoup moins. Ça, je le regrette. Mais je suis très liée encore à mes amis et bon, à ma famille. Mais particulièrement à mes amis, on est une très bonne bande, comme on dit. On était très nombreux à être nés en 66. On était, je crois, 35. Et on est restés très, très amis. La plupart de ces amis sont restés au village, se sont mariés au village et tout ça. Et quand je reviens, c'est un peu comme avec mes parents, ils m'accueillent comme si j'étais partie la veille. Et avec la même dialectique, très intelligente, très subtile. Ils savent tous que je fais des choses un peu bizarres, du théâtre, enfin. Et en même temps, ils en sont fiers, je crois qu'ils sont contents pour moi. Mais en même temps, moi, ils me traitent comme si j'étais restée la même qui a, 40 ans, enfin.
La petite fille de l'Américain et du Bilano.
Oui.
Merci Marie-Josée Malis.
Merci beaucoup.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Marie-Josée Malis. À voix nue. Réalisation Guillaume Baldi, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.